France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction. Rebonjour Antoine Marette.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Face au désengagement américain en Ukraine, Emmanuel Macron évoque l'envoi de troupes françaises sur place. Une éventualité déjà envisagée par la France dans le passé, mais cette fois les choses se précisent. Les suites du procès de Mehdi Nemmouche à Paris, la cour d'assises spéciale commence à entendre les quatre journalistes ex-otages du groupe État islamique retenus pendant 11 mois en 2013 et 2014. L'horizon s'éclaircit un peu pour Richard Ferrand, le candidat à la présidence du Conseil constitutionnel proposé par Emmanuel Macron doit obtenir l'aval des parlementaires. Les députés RN ont décidé de s'abstenir. Dans la séquence interview de ce journal, nous recevrons Éric Nicolet, secrétaire général du syndicat unitaire de l'inspection pédagogique, le SUIFSU. Nous reviendrons sur l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Elisabeth Borne, du déploiement de 60 inspecteurs supplémentaires afin que 40% des établissements privés sous contrat soient inspectés dans les 2 ans. L'Europe seule face à la menace russe, c'est un peu l'image qui s'impose ces derniers jours. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, tout se passe comme si Washington et Moscou se partageaient des zones d'influence. C'est ainsi que le Kremlin juge aujourd'hui que les pourparlers la veille avec les États-Unis à Riyad constituent, je cite, un pas important en vue du règlement du conflit ukrainien, des négociations auxquelles la principale concernée, l'Ukraine, n'a pas été conviée. De son côté, Donald Trump tense vivement le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il pointe son impopularité et le détournement de l'aide américaine. Le président américain se dit bien plus confiant dans un accord avec la Russie, promettant une rencontre avec Vladimir Poutine avant avril. Bref, les États-Unis semblent préparer un désengagement militaire en Ukraine. Et face à cela, Emmanuel Macron revient à la charge au sujet de la présence de troupes françaises en Ukraine. Il évoque cela dans un entretien avec la presse quotidienne régionale diffusée aujourd'hui. Une éventualité envisageable par la France il y a un an déjà et régulièrement remise à l'ordre du jour avec d'autres pays européens. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Antoine.
Les choses cette fois semblent se préciser, Éric.
Oui, alors interrogé sur le sujet, le président présente en fait plusieurs possibilités de déploiement français en Ukraine. D'abord en réarmant l'armée ukrainienne. Alors réarmer, cela veut dire bien sûr envoyer davantage d'avions, davantage de batteries antiaériennes, de canons et de munitions, de missiles. Mais cela sous-entend aussi la présence sur le sol ukrainien d'équipes de militaires français en charge du maintien en condition opérationnelle et de la formation des servants de tous ces équipements, notamment les plus sophistiqués, comme les batteries antiaériennes, les missiles ou les avions. Deuxième possibilité, non exclusive de la première, un déploiement limité de troupes, d'infanterie ou d'experts susceptibles d'épauler les Ukrainiens sur leurs arrières. Il ne s'agirait pas d'envoyer des troupes pour qu'elles participent au combat. C'est une solution à laquelle Françaises et Britanniques réfléchissent, a précisé le président. Enfin, on pourrait imaginer un déploiement français dans le cadre d'une opération de contrôle d'un cessez-le-feu, si celui-ci devait se matérialiser. Un déploiement sous mandat onusien, français, mais impliquant évidemment d'autres pays volontaires pour y participer. Si la ligne de contact entre les belligérants doit être contrôlée sur plus de 1200 km de long. Cela ferait plusieurs dizaines de milliers d'hommes à déployer.
Merci à vous, Éric Biégala. Autre conflit majeur, cette fois au Proche-Orient, la situation à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donne le feu vert aux négociations pour la phase 2 de l'accord signé avec le Hamas, et ceci afin d'obtenir la libération des derniers otages. Mais la décision est associée à des changements au sein de l'équipe de négociateurs israéliens. À Jérusalem, les précisions de Michel Paul de RFI.
Le Premier ministre israélien a tout simplement écarté les chefs des services de renseignement de la direction de la délégation israélienne, le chef du Shin Bet et également celui du Mossad. Il préfère faire appel à son conseiller le plus proche, Ron Dermer, le ministre des Affaires stratégiques, ancien ambassadeur israélien à Washington. Il est très proche des milieux républicains aux États-Unis. Cela permet à Benjamin Netanyahou d'avoir les mains libres pour l'exécution d'une deuxième phase plus politique. Les objectifs d'Israël sont la démilitarisation de la bande de Gaza, le retrait du Hamas et du djihad islamique de l'enclave palestinienne, et cela sans avoir recours à l'autorité palestinienne. La libération des 59 otages restants ne serait plus une priorité, et c'est précisément pourquoi le Forum des familles d'otages s'interroge sur cette nouvelle démarche et demande des comptes au Premier ministre israélien.
L'Union africaine dénonce la perpétration ininterrompue de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Soudan. Le pays est ravagé depuis 2 ans par une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et 12 millions de déplacés. L'UA se dit dans un communiqué préoccupé par l'escalade continue du conflit entre les paramilitaires des forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo et l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Google verse 326 millions d'euros au fisc italien. La justice italienne soupçonnait Google de ne pas avoir payé les impôts dus pendant la période 2015-2019. Un accord a donc été trouvé avec cette somme incluant les impôts, les sanctions et les intérêts. Ce versement met un terme au contentieux.
Dans l'actualité française, à Paris, la cour d'assises spéciale commence à entendre les 4 journalistes ex-otages du groupe État islamique retenus pendant 11 mois en 2013 et 2014.
Et pour aucun doute, Medine Mouche, qui se trouve dans le box des accusés, était un de leurs geôliers, ce qu'il dément. Ce matin, c'est le plus jeune de ces journalistes, Édouard Elias, qui a été entendu en premier. Bonjour Florence Turme.
Bonjour.
Vous êtes sur place. Édouard Elias n'avait que 22 ans au moment de son enlèvement. Il était avec le reporter Didier François. Édouard Elias a livré ce matin, pendant plus d'une heure, un récit édifiant et ininterrompu.
Édouard Elias, grand jeune homme vif et mince, commence à parler et tout de suite les images s'imposent. Précises, vivantes, terribles. Dès leur enlèvement, quelques jours après leur arrivée en Syrie, une station d'essence déserte, 5 hommes cagoulés qui nous embarquent. Je sens que ça pue. À genoux, Kalachnikov sur la nuque, clac. Premier simulacre d'exécution. Il y en aura d'autres au milieu des tortures infligées durant ces 11 mois de détention. Les tabassages sans répit, les privations de nourriture. J'ai bu dans la cuvette des chiottes. On était des loques, on était détruits. En quelques semaines, j'avais perdu 10 kilos. J'étais bleu. On comprend qu'il veut parler des coups. J'ai été traînée dans le sang des Syriens. Avec Didier, poursuit-il, on a imaginé se mettre chacun un sac plastique sur la tête, une corde autour du cou. On était prêt à le faire. Il va préférer une forme de combat, écouter, être attentif pour pouvoir raconter, avec aussi des pointes d'humour, de minuscules victoires, ce jeu de dames fabriqué avec des olives, les surnoms donnés à leurs geôliers, et parmi les plus cruels, ces 4 Britanniques, les Beatles, qui leur font entonner une version macabre d'Hôtel California. Une haine énorme envers nous aussi, chez cet homme cagoulé qui chantonne « Douce France, cher pays de mon enfance » et claironne « Je suis un ancien délinquant reconverti dans le nettoyage ethnique islamiste ». Une voix que j'ai entendue ici. À sa droite, dans le box des accusés, Medine Mouche, visage fermé, ne le lâche pas des yeux. Édouard Elias ne lui accorde pas un regard, ne prononce pas son nom, mais il répète « C'est la voix qui nous terrorisait, je suis formel ».
Merci à vous Florence Turme, ainsi que Johanna Gabric à la technique, et les dépositions des otages et de leurs familles se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine. Dans l'actualité politique, l'horizon s'éclaircit un peu pour Richard Ferrand. Le candidat à la présidence du Conseil constitutionnel proposé par Emmanuel Macron doit obtenir l'aval des parlementaires. L'ancien président de l'Assemblée, fidèle de la première heure du chef de l'État, répond à leurs questions depuis ce matin. Son audition devant la commission des lois du Sénat est désormais terminée. Celle devant la commission des lois de l'Assemblée a eu lieu juste avant. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Vous êtes pour nous à l'Assemblée. À l'issue de cette première audition, les députés RN ont décidé de s'abstenir, ce qui laisse un peu d'air à Richard Ferrand. Mais les jeux ne sont pas encore faits, Rosalie.
Non, ce n'est pas fait. Et Richard Ferrand tente là encore devant le Sénat, comme tout à l'heure à l'Assemblée, de déminer chaque sujet, de balayer chaque reproche, d'écarter chaque soupçon.
J'ai toujours été et je reste un homme libre. L'indépendance d'esprit est ma nature et ma culture. La loyauté primordiale à la Constitution l'emporte sur toute autre forme de reconnaissance.
Loin de convaincre à gauche, sans surprise, où l'on ne l'imagine pas s'affranchir de son ami président, Richard Ferrand s'en amuse.
Je ne crois pas, Madame Panot, avoir une âme de valet.
Et sans convaincre à droite non plus, les députés LR ont prévenu qu'ils voteraient contre. À l'Assemblée, Olivier Marleix enchaîne les tacles.
Le devoir d'ingratitude, comme l'appelait Georges Vedel, ne peut pas être qu'une bonne intention. Il doit être garanti par des qualités d'indépendance, de rigueur, d'intégrité manifestées auparavant, seule à même à faire échapper aux soupçons de connivence. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre formation juridique et ces fameuses 2 années de droit dont on entend parler ?
Richard Ferrand l'admet, il n'est pas un professionnel du droit, mais le Breton revendique justement expérience, indépendance, humilité, rigueur, en profite pour jurer que non, il ne souhaite pas un troisième mandat d'Emmanuel Macron.
Mais non, d'une pipe, je n'ai jamais affirmé ça. Ça n'a jamais été ma pensée ni mon désir.
La ligne de défense a suffi officiellement à convaincre les 16 députés RN et leurs deux alliés ciotistes de s'abstenir. Tout dépend maintenant des commissaires aux lois du Sénat et surtout des LR. Ils ont le pouvoir d'envoyer ou non Richard Ferrand au Conseil constitutionnel et d'infliger ou non un douloureux revers à Emmanuel Macron.
Merci à vous, Rosalie Lafarge, avec Mickaël Simon à la technique. À 3 jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, la loi de programmation agricole en examen depuis 10 mois sera soumise à un ultime vote ce soir à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Hier, le texte a été adopté au Sénat à 218 voix contre 107. La copie des sénateurs est largement critiquée par la gauche et par les associations de défense de l'environnement qui dénoncent des reculs environnementaux, car le texte du Sénat gomme les références au réchauffement climatique, à la biodiversité et à la transition agroécologique. Désormais, la loi qui sera étudiée ce soir à l'Assemblée est celle de la commission mixte paritaire qui a réuni 7 députés et 7 sénateurs hier jusqu'à minuit. Bonjour Marie-Aimée Copleutre.
Bonjour.
Le texte final de la CMP reste très proche de la version sénatoriale.
Les 24 articles du projet de loi de programmation agricole ont été débattus toute la soirée par la commission mixte paritaire. Sur le fond, le texte correspond largement à la version du Sénat, qui avait ajouté 130 amendements. Quelques modifications ont néanmoins été apportées sur le volet environnemental. Alors que le Sénat avait choisi de retirer tout objectif chiffré de surface agricole biologique obligatoire d'ici 2030, la commission mixte paritaire réintègre ce point. Objectif, atteindre 21% de surface agricole bio d'ici 2030. Autre ajout dans le texte, les mots transition climatique et environnementale qui avait été effacée par les sénateurs. En revanche, le terme agroécologie reste écarté de la loi, comme le souhaitait le Sénat. Quant à l'article 13, le plus controversé de la loi, qui porte sur la dépénalisation des agriculteurs s'ils commettent des atteintes non intentionnelles à la biodiversité, il reste intact. Concrètement, si la loi est votée, les agriculteurs échappent à des sanctions pénales. Par exemple, une fuite de lisier non intentionnelle depuis leur exploitation jusque dans un ruisseau, pas de peine. Concernant cet article, un autre petit ajout a été fait, mise en place de stages obligatoires de sensibilisation à l'environnement pour les agriculteurs, une mesure qui avait pourtant été jugée infantilisante par les sénateurs et retirée. Désormais, 10 parlementaires sur 14 ont voté pour ces conclusions de la commission mixte paritaire, dont les députés Rassemblement National et ceux du parti présidentiel. Ce sont les 4 députés de gauche qui ont voté contre.
Merci à vous, Marie-Aimée Copleutre. Midi passé de 42 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview de ce journal. Notre invité, Éric Nicolet. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat unitaire de l'inspection pédagogique, le SUI-FSU. Alors en plus d'engluer François Bayrou sur le plan politique, l'affaire Betaram a eu pour effet de rouvrir la question du contrôle par l'État des établissements scolaires privés sous contrat. La ministre de l'Enseignement supérieur, Elisabeth Borne, a annoncé le déploiement de 60 inspecteurs supplémentaires afin que 40% des établissements soient inspectés dans les 2 ans. Comment est-ce que vous réagissez à cette déclaration ?
Eh bien, 60 inspecteurs, si on écoute bien les propos d'Elisabeth Borne, ce ne sont pas 60 nouvelles créations de postes, mais elle parle des 60 inspecteurs qui ont été recrutés depuis 2 ans et qui sont déjà en poste, mais qui ne sont pas des inspecteurs spécifiquement affectés au contrôle des établissements privés. Hein. Ce sont des inspecteurs de toute discipline qui ont été recrutés en plus, ces 2 dernières années, pour renforcer les équipes et permettre justement que ces contrôles puissent s'effectuer. Donc je crois qu'il faut faire attention aux propos qui ont été tenus. Il ne s'agit pas de nouvelles créations de postes. Et puis l'objectif de 40%, eh bien écoutez, 40% en 2 ans, ça veut dire 20% par an, bah, c'est justement l'objectif qui est fixé depuis la création du Conseil de l'évaluation de l'école il y a 6 ans. C'est l'objectif annuel qui est fixé d'évaluation des établissements, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, et qui malheureusement, jusque maintenant, n'est pas tenu, puisque s'il est à peu près tenu dans le public, nous sommes loin d'avoir atteint ces chiffres pour les établissements privés.
Ça veut dire qu'il y a un problème spécifique lié au contrôle des établissements privés.
Ça veut dire que il est plus difficile, en effet, de contrôler ces établissements. Alors, surtout parce que pour cela, il faut des moyens humains. On vient d'en parler. Ils sont insuffisants. Il faut du temps. L'évaluation globale d'un établissement, ça prend quand même plusieurs jours. C'est une équipe de plusieurs inspecteurs, inspectrices qui se rendent plusieurs fois dans cet établissement. Et jusque maintenant, en tout cas au début de la procédure d'évaluation telle qu'elle a été instaurée par le Conseil de l'évaluation de l'école, c'était sur la base du volontariat des établissements. Donc, certains établissements ont joué le jeu, d'autres non.
Et pourquoi c'est plus facile dans le public que dans le privé ?
Bah, je dirais que dans le public, les établissements jouent le jeu et que voilà, on se fixe des objectifs. On est dans un dialogue permanent avec les chefs d'établissement qui fait que on a réussi quasiment. Je n'ai pas les chiffres, c'est pas moi qui les ai d'ailleurs, c'est le ministère. Mais on a quasiment réussi en 5 ans, en effet, à voir la totalité des établissements. Avec les établissements privés, encore une fois, sur la base du volontariat au départ, ça a été plus long à mettre en place. Bon, ça monte en charge, ça monte en puissance. Ce que dit la ministre, c'est qu'elle souhaite vraiment que ce soit, comme c'est prévu par les textes, 20% des établissements par an. C'est une bonne chose, mais je ne suis pas sûr que l'on y parvienne, compte tenu de la faiblesse des moyens humains, encore une fois, dont nous disposons.
Est-ce que l'inspection est la réponse à tous les problèmes ? Je vous pose la question parce que en 96, un rapport avait été fait sur le fameux collège-lycée Notre-Dame de Bétarame, rapport qui n'avait pas décelé les violences qui s'y exerçaient. Comment est-ce possible d'être aussi aveugle ?
Écoutez, moi, je ne peux pas évidemment parler de cette situation en particulier. D'abord, elle est lointaine, et puis voilà, je n'ai pas tous les éléments. C'est pas à moi de le faire. Mais il y a plusieurs manières d'entrer dans un établissement scolaire pour des inspecteurs ou des inspectrices. Il y a tout d'abord l'inspection des enseignants. Celle-ci, elle est réglementée tout au long de leur carrière. Les enseignants sont évalués. Donc, c'est une manière pour nous de rentrer régulièrement dans les établissements, mais avec un axe de regard qui est purement pédagogique. Ensuite, il y a des inspections qui peuvent être diligentées sur la base d'événements qui se produisent. Il me semble, d'après les informations que j'ai pu lire, comme tout un chacun, qu'il s'agit d'un événement, d'une gifle qui aurait été donnée à un élève. Donc, dans ce cas, on a un collègue dont la spécialité est établissement et vie scolaire qui se rend dans l'établissement, mais sur un sujet spécifique. Après, à l'occasion d'une visite, d'une journée ou d'une demi-journée, on peut voir un certain nombre de choses, mais on voit aussi ce qu'on nous montre.
Et les établissements parviennent parfois à dissimuler des dysfonctionnements. C'est ce qu'on constate avec Bétarame.
Oui, et en effet, on ne peut pas tout voir dans un établissement. Encore une fois, on rencontre les personnes que l'on veut bien nous présenter. Et donc, on fait nos rapports sur la base souvent de déclarations. Évidemment, il y a un certain nombre de choses qui peuvent passer au travers de nos visites. C'est tout à fait compréhensible.
Merci. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Éric Nicolet. Merci également à Héloïse Guérin pour la préparation de cette interview. L'inflation poursuit sa progression en France. Les prix à la consommation ont augmenté de 1,7% en janvier, c'est plus que prévu. Et qui dit inflation dit baisse de pouvoir d'achat et ce sont les plus fragiles d'entre nous qui payent le prix fort, notamment les étudiants. Cette année, le coût de la rentrée a augmenté de 3,5%, ce qui se traduit par un allongement des files d'attente devant les centres de distribution alimentaire. Une situation qui a également des conséquences directes sur les résultats scolaires des étudiants. C'est ce qu'on confirme une étude révélée aujourd'hui par la FAGE, le premier syndicat étudiant. Les 2/3 des étudiants qui ont recours aux aides alimentaires via des épiceries solidaires déclarent ne pas manger à leur faim. Et cela concerne également des étudiants non boursiers. Et ces jeunes payent au prix fort cette précarité au moment des examens, Kim Kasmi.
Le constat est éloquent puisque 71% des étudiants interrogés déclarent que leur précarité a eu des conséquences négatives sur leurs résultats scolaires. D'autant qu'une grande partie d'entre eux sont obligés de travailler plus de 10 heures par semaine afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, comme nous l'explique Mal Lisant, la présidente de la FAGE.
À partir de plus de 10 heures de travail par semaine, ça a un impact négatif sur la réussite universitaire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des étudiants qui sont obligés de se salarier 20, 25, 30 heures pour pouvoir juste survivre, en fait. Et donc, nécessairement, ça a un impact réellement négatif, et même sur la question d'égalité des chances de réussite à l'université, on a totalement perdu toute notion d'égalité des chances là dans le contexte.
Résultat, ils sont nombreux à redoubler, voire à arrêter leurs études pendant plusieurs années. C'est pourquoi la FAGE demande au gouvernement de réformer le système des bourses afin de l'élargir pour qu'il puisse passer de 750 000 à 1 million d'étudiants. Maëlle Lisant.
En urgence, il faudrait attendre 1 million de boursiers pour justement faire rentrer tous les étudiants qui sont à la limite aujourd'hui d'entrer dans le système de bourse, qui sont des étudiants des classes moyennes et classes moyennes basses, et ces étudiants-là qui sont aujourd'hui les plus touchés par la précarité parce qu'ils n'ont pas accès suffisamment à l'aide de leurs parents, ils n'ont pas non plus accès aux aides de l'État.
Mais avec une baisse du budget de l'enseignement supérieur de 500 millions d'euros prévue à la rentrée, pas sûr que cette réforme puisse voir le jour prochainement.
Cet après-midi, les nuages domineront le ciel. Seuls les Pyrénées et la Corse profiteront de belles éclaircies. Température encore froide dans l'Est, 5 degrés à Strasbourg, mais en hausse sur le reste du pays, 10 à Paris et même 17 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet. Prochain journal à 18h avec Stanislas Vazac.